Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, la guerre contre le coronavirus qui est loin d'être gagnée, les raisons de s'inquiéter d'une possible deuxième vague ont même tendance à se multiplier ces derniers jours. Nous verrons quels en sont les signes en Europe avec Marie-Pierre Véraud. Les banques encouragées à poursuivre leur effort pour passer le cap de la crise économique, la BCE, la Banque Centrale Européenne, fixe une nouvelle échéance à janvier prochain. Explication signée Marie Viennot. Emmanuel Macron et l'ombre portée de Nicolas Sarkozy sur le thème de la sécurité. Troublante conjonction hier soir entre la présence médiatique de l'un et de l'autre. Décryptage de ce chassé-croisé signé Sophie Delpont. Et voilà que la relance du fret ferroviaire réapparaît en première ligne dans les mesures concrètes envisagées par le gouvernement dans le droit fil de la Convention citoyenne pour le climat. Nouveau coup d'épée dans l'eau ou véritable relance d'un mode de transport vertueux. Anne-Laure Chouin mènera des éléments de réponse dans ce journal. L'ancien Premier ministre malaisien reconnu coupable ce matin de corruption à très grande échelle, plusieurs milliards de dollars détournés d'un fonds souverain. Nous retrouverons Gabriel Maréchaux à Kuala Lumpur. Et puis un autoportrait signé Rembrandt, vendu aux enchères à Londres ce soir, mis à prix aux alentours de 15 millions d'euros. Jacqueline Petros nous racontera l'histoire de ce petit tableau signé du grand maître néerlandais. L'épidémie de nouveau coronavirus est-elle ou non maîtrisée? Depuis quelques jours, les signes s'accumulent, montrant une accélération du nombre de contaminations dans le monde, faisant craindre une deuxième vague virtuellement dévastatrice. L'inquiétude est par exemple à son comble en ce moment en Amérique du Sud, où la pandémie flambe. Marie-Pierre Véraud, bonjour.
Bonjour.
En Europe, on assiste aussi au retour de mesures sanitaires restrictives.
Et oui, l'Europe qui risque de retomber dans son travers, vous savez, ces mesures sanitaires prises en ordre dispersé et souvent dans une certaine cacophonie. Il devient de plus en plus compliqué de planifier ses vacances. Le cas de l'Espagne l'illustre. Nous y reviendrons. Mais la Belgique, vous le savez, qui connaît un taux de mortalité élevé, a donné un nouveau tour de vis avec ce que l'on appelle le rétrécissement de la bulle de contact, couvre-feu à Anvers, bars de nuit et discothèques fermés en soirée en Catalogne, certains quartiers de Lisbonne au Portugal qui reconfinent. Et ce matin, l'Allemagne, à son tour, l'Institut Robert Koch tire la sonnette d'alarme devant l'augmentation des nouvelles infections. Le port du masque est fortement conseillé, même en extérieur. Les tests de dépistage se multiplient aux frontières, dans les aéroports. Certains pays inquiètent, notamment la Roumanie. Vous savez, c'est l'un des pays pourvoyeurs de main-d'œuvre saisonnière en Europe. Eh bien, ces ressortissants voient les frontières se refermer.
Et toujours dans le contexte européen, Marie-Pierre, l'étau semble se resserrer singulièrement un peu plus sur l'Espagne.
Oui, et c'est une catastrophe qui s'annonce pour le pays qui dépend si fortement du tourisme, plus de 12% de son PIB. Déjà, plus d'un million d'emplois ont été détruits en Espagne. Le pays qui est de nouveau montré du doigt comme au plus fort de la pandémie. L'Allemagne, la France et la Belgique déconseille ainsi fortement de se rendre dans les régions les plus risquées comme la Catalogne, l'Aragon ou la Navarre. Mais c'est avec le Royaume-Uni que la tension est au plus haut. Londres impose depuis ce week-end une quatorzaine à tous les voyageurs arrivant d'Espagne, quelle que soit la région, Baléares et Canaries comprises, alors que le virus y circule assez peu. Madrid s'affole bien sûr et souhaite que Londres affine la cartographie. Mais pour l'heure, les appels de Pedro Sanchez ont résonné dans le vide. Le Royaume-Uni, qui surveille aussi de près la situation en France et en Allemagne, et pourrait imposer également à leurs voyageurs un isolement à l'arrivée sur le sol britannique.
Merci Marie-Pierre Véraud. Et puis l'Iran enregistre un nouveau record, sinistre record du nombre de victimes en 24 heures, 235 morts en Iran. Il est demandé aux banques européennes de poursuivre leurs efforts pour passer le cap de la crise économique liée à la Covid. La BCE, la Banque Centrale Européenne, s'est fendue ce matin de nouvelles recommandations dans l'objectif d'éponger les pertes subies pendant la crise et aussi de soutenir l'économie. Il s'agit en fait, Marie Viennot, de prolonger l'effort jusqu'en janvier prochain.
Ne pas verser de dividendes, ne pas utiliser ses ressources pour racheter ses propres actions, ces recommandations faites aux banques par la BCE au début de la crise du Covid-19, même si elles ne sont pas obligatoires, ont pour le moment porté leurs fruits. Les plus grandes banques européennes avaient annoncé le versement en 2020 de 35 milliards d'euros de dividendes sur l'exercice 2019. 6 milliards avaient été versés avant la première recommandation de la BCE, seulement 2 milliards depuis. Parmi les sociétés qui ont suivi les conseils de la BCE, la Société Générale, BNP Paribas et le Crédit Agricole, qui ont annulé le dividende promis en 2020. Le fait que la recommandation émane de la BCE et soit plutôt suivie permet aux banques d'être logées à la même enseigne vis-à-vis de leurs actionnaires. Mais elles deviennent de fait des valeurs moins attractives alors que leur cours de bourse a beaucoup chuté depuis la mi-mars. Pour la BCE, ce n'est pas une question éthique, mais économique. En gardant par devers elles l'argent qu'elles auraient versé à leurs actionnaires, les banques augmentent leur capacité à prêter aux entreprises au moment où elles en ont cruellement besoin, et elles peuvent aussi mettre une partie de ce cash en réserve pour faire face à l'augmentation de ce qu'on nomme les prêts non performants, c'est-à-dire les prêts pour lesquels les emprunteurs accumulent les retards de paiement. La Banque Centrale Européenne suit comme le lait sur le feu cet indicateur des prêts non performants, car au-dessus d'un certain pourcentage, c'est la stabilité du système bancaire qui serait mise à mal. Les banques ont donc elles aussi intérêt à suivre ces recommandations.
Merci Marie Viennot. Toujours au registre économique, en dépit de l'effondrement du marché automobile, le groupe PSA Peugeot Citroën est demeuré rentable. Au premier semestre de cette année 2020, son chiffre d'affaires a certes chuté de plus de 34%, mais le groupe table sur un rebond au second semestre, rebond d'ailleurs déjà constaté pour le mois de juin dernier. Qui avait dénoncé des pratiques d'insultes racistes et de maltraitance de la part de collègues du dépôt du tribunal de grande instance de Paris, a décidé finalement de porter plainte lui-même, c'est ce qu'il a annoncé ce matin, pour harcèlement, et cela depuis 2018. Il estime être la cible de sa hiérarchie depuis qu'il tente d'alerter ses supérieurs, alors qu'il est seul des sanctions disciplinaires ont été prononcées, rappelons-le, contre 6 fonctionnaires de police dans le cadre de cette affaire. Hier soir, Emmanuel Macron a quant à lui effectué une visite surprise auprès de policiers, justement, parisiens. Le président de la République a annoncé une indemnité spécifique pour les fonctionnaires travaillant de nuit, pour un montant global de 10 millions d'euros, c'est ce qu'a précisé le ministère de l'Intérieur. La sécurité apparaît de plus en plus sollicitée comme thème fédérateur par le gouvernement ces dernières semaines, après le déplacement du Premier ministre, c'était à Nice. Hier soir, Nicolas Sarkozy était l'invité du journal de 20h sur TF1. Le thème de la sécurité, du sentiment d'insécurité, était l'un des axes majeurs de l'ancien chef de l'État, qui a précisé qu'il ne prépare pas un retour en politique. Bonjour Sophie Delpont.
Bonjour.
Alors faut-il y voir une simple coïncidence dans ce chassé-croisé entre l'actuel locataire de l'Élysée et l'un de ses prédécesseurs?
Bien, il y a une certaine concordance des temps. Hier soir, sur le plateau de TF1, Nicolas Sarkozy, qui conseille régulièrement Emmanuel Macron, s'amusait de la comparaison sur l'appétence de l'exécutif pour les déplacements sur le terrain.
Si à chaque fois qu'un ministre ou un premier ministre ou un président va sur le terrain, on lui dise « il fait comme Sarkozy, pardon », c'est réducteur.
Ce matin sur France Info, Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance et des familles, issu des rangs de la gauche, a fait référence à l'ancien chef de l'État sur le thème de l'insécurité.
Il y a un sentiment d'insécurité croissant d'une partie de la population. Mais vous savez, vous vous référez à mon histoire politique, effectivement, qui vient plutôt de la gauche, et donc on ne peut pas me soupçonner d'être particulièrement sarkozyste, par exemple. Mais il avait mis, je pense, le doigt, il avait mis les mots sur une réalité que la gauche, d'ailleurs, n'avait pas été en mesure de faire.
Une influence dans le style et l'idéologie qui ressort aussi, Sophie, dans la manière de défendre, en ce moment, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, accusé de viol.
Oui, hier soir, interrogé au sujet de Gérald Darmanin, Nicolas Sarkozy lui a apporté un soutien inconditionnel.
Le respect de la présomption d'innocence. Je ne le dis pas parce que Gérald est un ami, je le dis pour la démocratie française et pour l'état de droit.
Et ce matin, sur France Info, le secrétaire d'État, Adrien Taquet, utilisait les mêmes mots. Il répond à Nicolas Taillard.
Je vous dis juste que notre démocratie est fondée sur un certain nombre de principes de droit, oui de droit, et qu'il faut veiller à les respecter.
Nicolas Sarkozy sera jugé pour corruption en octobre prochain dans le cadre de l'affaire Bettencourt.
Merci Sophie Delpont pour tous ces développements. Les autoroutes ferroviaires reviennent sur le devant de la scène avec, en guise de projet locomotive, le redémarrage du train dit des primeurs entre Perpignan et Rungis, alors que cette ligne emblématique avait été stoppée il y a tout juste un an de cela pour cause de non-rentabilité. C'est en tout cas l'un des axes développés par la Convention citoyenne pour le climat, reprise hier par le gouvernement. Bonjour Anne-Laure Chouin.
Bonjour.
Il s'agit globalement de relancer le fret ferroviaire en France. Une fois de plus, diront certains, mais cette fois-ci, Anne-Laure, on dépassera peut-être les déclarations d'intention.
Le moment, en tout cas, est favorable. La nécessité de décarboner le transport de marchandises n'est plus à prouver. La demande des opérateurs pour du transport vert n'a jamais été aussi forte. Idem la demande sociétale. Et puis la colère suscitée par la suppression de ce train des primeurs, qui partait plein, mais qui revenait souvent à vide, a remis la question du fret au cœur de l'actualité. Bref, c'est le moment ou jamais, et les annonces d'hier sont pour une fois concrète, suppression des péages ferroviaires, c'est-à-dire de ce que payent les opérateurs de transport à SNCF Réseau pour utiliser la ligne jusqu'en 2021, diminution de ce péage ensuite et création de lignes dédiées au transport de marchandises. Pour Aurélien Barbet, délégué général du GNTC, le Groupement National des Transports Combinés, la condition pour que ce nouveau plan de relance du fret fonctionne, c'est l'investissement qui sera fait dans le réseau. Écoutez-le.
C'est la question de la qualité de service. Avoir des bons sillons, c'est-à-dire des créneaux de circulation ferroviaire qui soient bien déterminés et fiables pour les opérateurs, avec des trains qui partent à l'heure et des trains qui arrivent à l'heure. Ça, c'est le plus important. Aujourd'hui, quand vous faites du transport routier, vous savez que votre camion, il va partir à l'heure et il va arriver à l'heure. Bah, dans le transport ferroviaire et dans le transport combiné, c'est pas forcément toujours le cas parce qu'il y a beaucoup d'aléas. Il peut y avoir des travaux sur le réseau, des accidents, des grèves et qui font que la qualité de service n'est pas toujours bonne dans le transport combiné. Donc nous souhaitons une véritable amélioration de la qualité de service et ça, c'est un sujet qui concerne notamment le gestionnaire d'infrastructure, c'est-à-dire SNCF Réseau.
Et tout cela demande de l'argent, ça coûte cher d'entretenir un réseau, mais aussi un changement de culture. Le transport de marchandises n'est plus privilégié dans le ferroviaire. Il faudrait davantage de personnel dédié au sujet chez SNCF Réseau notamment.
Merci Anne-Laure Chouin, on pourrait résumer tout cela par cette formule. Après le train déprimé, place au train déprimeur. L'ex-premier ministre malaisien Najib Razak reconnu coupable ce matin d'abus de pouvoir, abus de confiance, blanchiment d'argent par la haute cour de Kuala Lumpur. L'ancien chef du gouvernement risque plusieurs années, sinon dizaines d'années de prison pour avoir pillé un fonds souverain censé contribuer au développement économique de la Malaisie. Une fraude portant sur plusieurs milliards de dollars. Gabrielle Maréchaux, notre correspondante à Kuala Lumpur, a assisté ce matin au jugement rendu par la justice malaisienne.
C'est sous les prières de ses supporters que Najib Razak est arrivé au tribunal ce matin. Autour de son cou, une cravate rouge et bleue assortie au t-shirt des centaines de militants politiques qui l'entouraient. Entré dans la salle d'audience d'un pas nonchalant, Najib Razak sortira du tribunal coupable des 7 chefs d'accusation étudiés dans ce premier procès consacré aux 10 millions de dollars versés directement sur son compte en banque. La défense de l'ancien Premier ministre n'a donc pas convaincu la justice qui ne l'a pas cru quand il assurait penser sincèrement que les millions versés sur son compte étaient une donation de la royauté saoudienne et que sa signature avait dû être falsifiée. Le juge a également souligné que Najib Razak n'avait pas rendu l'argent lorsque le détournement avait été rendu public. Mais l'homme n'a certainement pas dit son dernier mot. Il pourra faire appel. D'autres procès l'attendent avec 35 autres chefs d'accusation et des versements suspects d'un montant encore plus conséquent. En attendant, il reste encore député du Parlement malaisien et connaît toujours une grande popularité. Son compte Facebook est ainsi bien plus suivi que ceux de ses deux successeurs et à l'extérieur du tribunal. Ses supporters attendait toujours l'ancien Premier ministre malgré les haut-parleurs de la police incitant à la distanciation sociale.
Et ajoutant qu'une partie des fonds détournés aurait servi à financer le film Le Loup de Wall Street signé Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio, cela ne s'invente pas. Un événement ce soir à Londres et nous en terminerons par là dans le monde de l'art. Un tableau de Rembrandt va être vendu aux enchères chez Sotheby's, un des 3 autoportraits de l'artiste détenu par un particulier. Il est daté de 1632 et devrait être mis en vente aux alentours de 15 millions d'euros. Jacqueline Petrose.
C'est un petit tableau de 15 cm sur 20 où exceptionnellement, Rembrandt s'est représenté non pas en artiste mais en bourgeois, vêtu de noir, en grand chapeau et collerette de dentelle blanche. Eduardo Roberti, spécialiste en peintures anciennes chez Sotheby's à Londres.
On voit l'artiste au seuil de la célébrité. Il a 26 ans. Il vient d'arriver à Amsterdam et il veut se présenter au monde non seulement comme un grand peintre de portraits, mais également comme quelqu'un qui pouvait faire partie des classes riches.
Ayant toujours été dans des collections privées, les experts n'ont certifié ce tableau qu'en 96. Pourtant, c'est un tournant dans l'œuvre du peintre, d'où son estimation.
C'est seulement en 1632, quand ce tableau a été peint, qu'il commence à signer avec son seul prénom, Rembrandt. Il voulait faire écho aux grands maîtres du passé, Raphaël, Michel-Ange, Léonard. On voit le début de l'artiste qui commence à se peindre avec de l'introspection. C'est vraiment la naissance de la psychologie chez Rembrandt.
Cet autoportrait fait partie d'une vente de plus de 500 pièces qui se tient en une seule fois, le calendrier des ventes ayant été bousculé par la pandémie du coronavirus.
Le reportage de Jacqueline Petros à propos de cette vente, en effet, tout à fait exceptionnelle qui va se dérouler ce soir 18h à Londres. Le temps, beaucoup moins étouffant qu'hier. Personne ne s'en plaindra. 5 degrés en moyenne de moins pour les maximales comprises cet après-midi entre 25 et 31 degrés jusqu'à 35 dans le sud. Une journée marquée par le retour des orages, parfois forts, en région Rhône-Alpes, en Auvergne et aussi dans le Jura. C'est la fin de ce journal préparé avec Brice Garcia. La prochaine édition, ce sera 18h et elle vous sera présentée par Olivier Vogel.